Un bruit. Bonjour et bienvenue, c'est Comme un bruit qui court, le magazine de reportage du samedi sur France Inter qui vous fait son compte de fin d'année.
Depuis le studio 561 de la Maison de la Radio, une émission empreinte de réalisme magique, réalisée par Jérôme Chélus, assistée de Lucille Valérie, avec Serge Viguier à la technique aujourd'hui.
C'est à notre tour de vous raconter une histoire pour cette fin d'année, un conte radiophonique avec des vrais morceaux de reportage dedans. Une histoire qui se passe dans une réalité alternative, mais qui nous ressemble quand même beaucoup, puisque tous les sons, toutes les rencontres et les dialogues viennent de nos émissions, mais pas tout à fait dans le même ordre et pas tout à fait dans le même sens.
Nous avons imaginé un espace de démonstration autour des énergies renouvelables, autour de l'agriculture biologique, autour de ce concept de permaculture.
Et puis...
Dites-moi, monsieur, c'est sérieux les bruits qui courent ?
Peut-être faites-vous partie des pas fâchés de bientôt finir 2017. Et ensuite, 2018, même galère reconduite.
Monsieur le Président, vous leur dites quoi aux Français ? Il y a ce sapin qui est là, c'est une période particulière pour les Français. Vous leur dites, n'ayez pas peur de toutes ces révolutions que je leur propose, vous propose ?
Résumons, puisque c'est le moment des bilans. L'ubérisation à tout craint et le vote utile à marche forcée. La casse du code du travail sur ordonnance et la chasse aux chômeurs et autres extrémistes fainéants cyniques. Les dividendes records et l'accroissement toujours plus délirant des inégalités.
Tout aussi délirant que l'évasion fiscale des multinationales.
Alors que les budgets publics amputent les emplois aidés.
Des murs toujours plus hauts pour les humains et toujours pas de frontières pour les fonds vautours. Les protections sociales fondent comme les glaces des pôles. Difficile donc d'être optimiste quand l'optimisation fait sa loi. Et tout ça pendant que les Britanniques Brexit, les Catalans s'excitent et que toute une partie de l'Europe orientale vire au brun français. Tout ça toujours pendant que l'autre cinglé peroxydé nous tweete ses angoisses en hurlant aux fake news. Bref, vous comprendrez qu'on a voulu trouver autre chose comme dernier bruit à faire courir cette année que de juste regarder dans le rétroviseur. Plutôt un pas de côté, quelque chose en mi-chemin entre la réalité et la fiction, mi-conte, mi-reportage, un de ces voyages en pays imaginaire que notre réalisateur Jérôme Chélus aime à concocter à partir des heures de bruit qui courent que nous avons réussi à rattraper. Histoire de pas garder un trop mauvais souvenir de 2017 et pour pas se laisser faire en 2018. Jusqu'à 17h donc sur France Inter, comme un bruit qui court, il était une fois mais pas deux un drôle de conte dans tous les sons et dans tous les sens.
C'est alors...
Étrangement...
Soudain...
Et puis...
Je m'occupe de rien, je suis chez moi, je suis tranquille, qu'on foute la paix.
C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt.
Travaillez là, hein ! Grattez, paumez, hein !
Oui, patron !
Ils suivaient les traces du loup.
Donc, il y aura un dialogue social.
Et puis...
Un peu plus tard...
Oh, un bruit qui court !
Et tirait des coups de fusil.
Antoine Chao...
Charlotte Perry...
Oh, il y en a marre.
Guy Vauquetil...
Vraiment, mais...
Non, mais il n'y a pas de problème. Non, moi, j'ai des problèmes, je ne sais pas pourquoi déjà. Non, je ne sais pas.
Hashtag comme un bruit.
Il était une fois, dans une forêt lointaine, trois petits bonhommes qui vivaient heureux et en paix au milieu de la nature.
Je ne sais pas comment vous dire ça, mais il y a un bruit qui commence à courir dans la région.
Quel bruit ?
Le premier était le plus raisonnable. Il aimait l'ordre et les choses bien rangées.
Avoir de l'argent, c'est la liberté. Et en sortant le moins possible de mon petit paradis.
Le deuxième aimait l'aventure et la magie des nouvelles idées. Enfin, des alternatives, quoi.
Ouais ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bruit qui court ?
Le troisième, quant à lui, était un romantique et passait ses journées à rêver.
Pas de souffrance, pas de mouvement, pas d'affolement. Il était avec ses copains, là, hop, on l'a juste écarté le temps de... la mise en place, les clouks. Mais bon, voilà, si on pouvait faire ça pour tous, ça serait beaucoup plus simple, quoi.
Mais un jour, au milieu de la nuit, un bruit nouveau les réveilla.
T'as pas entendu comme un bruit ?
Parce que c'est notre projet !
Comment ? T'as pas entendu comme un bruit ?
C'était le loup.
Comment ?
Réduire les charges et diminuer le coût du travail. C'est fait, c'est en cours.
Quoi ? Le loup est entré dans la bergerie comme le capital privé dans les entreprises publiques ? C'est l'horreur !
Macron est surtout de la gueule du monde.
Ils ne sont pas dans une bergerie, je t'ai dit. Ils étaient dans la forêt.
La forêt de Sivens ?
Non, la forêt en général. Au bout d'un moment, n'y tenant plus, les hommes dirent
« Puisque ce loup est si malin et que nous ne pouvons l'attraper, c'est donc la forêt que nous allons raser. »
Sitôt dit, sitôt fait. Et les hommes coupèrent tous les arbres de la forêt. Si bien que nos trois bonhommes en furent chassés.
Alors là, la barricade, des palettes, des pneus, des bambous, des troncs d'arbres. Sivin sans barrage, zat partout.
Chacun décida donc de partir à la recherche d'une nouvelle maison.
On zigzag entre les palmiers.
Ouais, c'est sympa, non ?
Le premier décida de partir chez les riches.
Au moins là-bas, je serai en sécurité. Ça commence pourtant très bien.
Bonjour à toutes et à tous. C'est fabuleux, c'est absolument superbe. Superbe reportage, des endroits superbes, des villages superbes, ces jolies plantes et ces fleurs, très joli parc, une autre très jolie fête.
Le pays merveilleux, ou pays des riches, est un monde à part. Ceux qui réussissent se retrouvent pour savourer leur bonheur. Les habitants, qui se font appeler les premiers cordés, sont tous des modèles de réussite et n'aiment rien tant que de s'écouter raconter leur success story, signe de leur valeur au singulier comme au pluriel.
Tout était beau, distingué, raffiné,
bref,
épuré.
Ici, l'argent se vit sans fausse pudeur, sous le soleil, à l'abri des contingences du reste du monde.
Voilà, la piscine.
Un endroit parfait pour se mettre à l'abri, se dit notre bonhomme. Au moins ici.
Bien joli marché, un bien joli village, ses richesses.
Il n'y a que des bonnes nouvelles.
Formidable, toujours aussi magique, je vous l'ai dit. Quelques-unes des plus belles richesses, des plus belles traditions. Une bien belle tradition, une belle tradition pour un très très bel événement.
Sauf qu'il dut vite se rendre compte qu'il n'était pas le seul à avoir eu cette idée. D'autres réfugiés avaient fui le loup et se pressaient aux portes du pays merveilleux, demandant eux aussi à vivre ce rêve éveillé.
C'est très bien qu'on ne peut pas accueillir tout le monde et loger tout le monde.
Vous allez voir, il va y avoir un véritable mouvement citoyen de grande ampleur.
J'ai pas besoin qu'on vienne me salir le quartier, là, et tout me gâcher, non ?
Et les habitants de ce pays merveilleux, eux, n'entendaient pas du tout laisser tout le monde entrer. Certains étaient même très mécontents, prêts à en découdre pour empêcher le grand remplacement que leur prophète annonçait depuis des années. Ça ne se passera pas comme ça.
Le combat continue, et le combat va continuer. Nous avons déjà... Demain, il y aura des grillages.
Le camp va être installé à moins de 2 minutes à pied et peut être très inquiet pour nos enfants.
Je suis contre. Évidemment que je suis contre. J'habite à côté. Évidemment que je suis contre.
On est en colère, on est en mouvement de protestation parce qu'il crée un climat délétère, un climat de guerre civile. Moi, je dis les mots. Et les choses vont très mal se terminer.
Il y a matière à descendre dans la rue avec des fourches.
On va pas se laisser manger, on n'est pas des... On va pas se laisser égorger. On s'en fout, on va pas lâcher l'affaire. Alors allez les mettre ailleurs, hein, c'est bon.
En plus, bon, c'est une claque pour les gens qui habitent là.
Certains, se voulant plus pragmatiques et mesurés, tentaient de voir le bon côté des choses. Sans grand succès, il est vrai.
C'est pas des migrants qui vont être là.
On s'en fout. On veut personne.
À la limite, je préfère des migrants aux SDF.
Ah bon ?
Je préfère
les SDF aux migrants.
Bah, moi, je préfère les migrants, finalement. Parce qu'a priori, les migrants, s'ils s'intègrent petit à petit, ils se tiendront mieux, probablement, et leurs enfants aussi, que les SDF qui ont des épaves de la société et qui pratiquement ne peuvent pas s'en sortir, à mon avis. Donc, les migrants, on peut espérer quand même qu'ils vont avancer. Ils arrivent un peu crasseux, mais petit à petit, ils auront la volonté de s'intégrer, de s'en sortir. Moi, je préfère les migrants.
On est dans trois genres de bonne tradition.
C'est le soviet, c'est pas la démocratie, ça. Mon mari est ambassadeur.
Et les esprits s'échauffent vite chez les premiers de cordée qui pensent leur paradis menacé. Et surtout l'ordre de préséance qui garantit l'ordre et la stabilité du pays merveilleux.
C'est pas des migrants qui vont être là.
On s'en fout. On veut personne.
C'est pas n'importe quoi pour se nourrir. Il y a des produits de qualité, mais ça coûte cher. Alors les gens qui sont pauvres, qui n'ont pas de moyens, qui n'ont pas d'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont pas être heureux. Vous savez qu'à un moment donné, il y avait une association des gens qui invitaient pour Noël des gens défavorisés pour leur faire passer un bon Noël. Pourquoi ça s'est arrêté ? Parce que ces gens ont vu autre chose qu'ils ne connaissaient pas. Ça les a rendus dingues, ça les a rendus malades. Parce qu'ils vont avoir sous les yeux, tous les jours, des magasins avec des belles marchandises chères qu'ils n'auront pas les moyens de s'offrir. Vous croyez que ça va être généreux, ça ? Vous croyez que ça va les rendre heureux ? On a toutes les nuits des gens qui viennent vider les poubelles pour se nourrir. C'est pas possible que ces gens-là puissent vivre là. Il y a d'autres endroits pour les mettre. C'est de la provocation parce que ce sont les bourgeois qui habitent.
Alors on a quand même une éducation, nous. Les autres en ont moins.
C'est une histoire de sécurité, surtout.
Oui, c'est ça.
Et du coup, l'atmosphère est devenue vite plus plombée. Quand le monde des riches premiers de cordée s'est retrouvé confronté à la réalité des autres, ceux qu'ils appelaient les sans-dents. Alors, la surveillance qui garantissait la béatitude commune est devenue une préoccupation de plus en plus pressante. On se mit en tête de trouver tout un tas de solutions pour repousser le problème et protéger le pays merveilleux.
La sécurité, c'est notre métier.
Et il a bien fallu se faire à l'idée de quelques petites concessions en matière de sécurité.
Le nombre d'immigrants qui cherchent tous les jours à pénétrer, vous pensez bien qu'il y a un prix à payer pour la liberté. La liberté n'est pas un don, la liberté malheureusement se paie, et se paie en partie par un certain renoncement à une certaine liberté que l'on avait, ou une absence de surveillance, et il faut accepter ce prix-là.
Pour assurer la sécurité des Français, parfois on doit restreindre un certain nombre de nos libertés.
On organisa même une grande exposition d'armement contemporain pour flatter le bon goût de chacun.
Mesdames, Messieurs, conférence sur le terre vers la sécurité de la ville commence dans 15 minutes dans la salle de conférence. Rejoignez-nous.
Il y a les dispositifs de drones et les dispositifs anti-drones.
Tout était beau, alors je ne vais pas vous dire.
Les dispositifs d'explosion et ceux anti-explosion. De détection et de contre-détection, les balles et les antiballes.
Nous qui cherchons quelque chose de discret pour un petit appartement parisien, on a envie de craquer.
Là, c'est des dispositifs pour défoncer des portes. Là, c'est un très joli petit présentoir. Et c'est que des grenades assourdissantes, des gaz lacrymogènes et ainsi de suite, dans une jolie vitrine présentée comme des bijoux.
Splendide.
Des gilets pare-balles pour chiens.
On a envie de craquer.
Là, c'est des fusils mitrailleurs.
Vraiment.
Nous allons passer maintenant à la partie maintien de l'ordre ou violence urbaine. Travail face à une agression directe à la batte de baseball.
Vivons heureux, vivons cachés, c'était pour l'ancien monde de la forêt d'où venait notre bonhomme. Ici, au pays merveilleux des premiers de cordée, c'était donc vivons heureux, vivons surveillés. Mais peut-être que ça en valait la peine après tout, se dit notre bonhomme. Toutes ces concessions et ces petits accros au principe de la liberté et tout ça. Parce que pour ce prix-là, vous avez droit à du rêve. Et une fois passés les contrôles...
Now, turn left, then you will have reached your destination.
Voilà ce qu'ils ont à défendre. Voilà ce que les premiers de cordée peuvent enfin s'offrir et savourer.
Oh là là, les voitures qu'il y a. 1, 2, 3, 4, 5 voitures. Et une Ferrari.
On peut aller avec ma voiture. On peut aller à déjeuner à mon club si vous voulez. Hein ?
Allons-y. Quelle voiture vous voulez qu'on aille alors ?
Et là, je vois Ferrari, oui, Bentley,
les Range Rover, et puis la Panamera. Voilà, ça, c'est les quatre voitures que j'ai.
C'est laquelle ? Alors, vous avez pris quelle clé ?
Bentley,
très bien.
C'est bon ? Ça vous va ?
Ah, mais ça fait un bruit particulier, la Bentley.
Celle-là, c'est une W12. Ouais. Et ça, c'est un de mes plaisirs, c'est de conduire mes voitures tous les jours. Il y a cette île qui est très jolie. C'est privé ici.
L'île est privée, donc ouais. Il y a des barrières avec un truc de sécurité.
Donc, ouais, mais... donc, ils me connaissent. Sinon, ils arrêtent tout le monde ici.
Ah oui, il y a carrément la patrouille de sécurité. Ça, ah, c'est oui, les flics qui patrouillent. Ouais. Dans...
C'est pas les flics, c'est des services privés qui patrouillent.
Waouh.
C'est là, ici, la blanche.
Cette petite enclave de luxe et,
ouais.
Et de prospérité.
Et de tranquillité en plus. C'est très safe et très tranquille.
Ah, c'est tranquille ici, hein.
Tranquille.
Il n'y a pas de homeless qui traîne, il n'y a pas de mendiant, il n'y a
pas de... pas de rien.
Ah, c'est l'avantage d'être entre soi. Est-ce qu'il y a des pauvres ?
Oui, oui, bien sûr. Il y a toujours des poches de pauvreté, hein. Bien sûr. Les systèmes sociaux ne sont pas développés comme la France. La différence, si vous voulez...
C'est-à-dire la santé, l'éducation, voilà. Le logement, tout ça, c'est...
C'est un désastre. Donc, traditionnellement, c'est le secteur privé qui aide... Les gens, tous les gens qui ont des grosses fortunes, ils ont tous une fondation. Et moi, je préfère que ce soit le secteur privé qui a fait l'allocation des ressources plutôt que l'État, parce que l'État, par définition, est incompétent.
pendant qu'on roule, là, on voit que des Porsche, des Bentley, des belles voitures, des Jaguars tout à l'heure.
Ouais, ouais. Alors, on va garer et puis on va marcher la propriété.
Même ici, il y a donc des poches de pauvreté. Tout n'était donc pas si rose au pays merveilleux des premiers de cordée. Prospérité et sécurité font un drôle d'alliage qui se raidit et se durcit quand les indésirables font intrusion. Et c'est dans une atmosphère de guerre civile larvée, un drôle d'air sécuritaire, que notre bonhomme a préféré quitter dardard le monde pas si merveilleux des premiers de cordée. À nouveau sur la route, celui qui préférait l'ordre et les choses bien rangées dut se résigner à changer de programme, à se mettre en marche. Et tant pis pour les premiers de cordée, il était une fois, mais pas deux.
Tout est merveilleux ici, n'est-ce pas un peu paradis? Que brillent mes yeux éblouis. Tout est merveilleux, merci, 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 je le dis. Oui, merci beaucoup. Merci, je ne sais qui, mais merci pour tout. Tout.
Comme un bruit qui court.
Pour tout.
Le deuxième bonhomme, qui était plus aventureux, s'en alla dans une forêt plus lointaine.
Il ne pouvait se satisfaire de ce monde urbain en faillite sociale et écologique, même si un nouveau monde était en gestation dans l'ancien, comme lui avait dit un jour Eduardo Galeano. L'enthousiasme est une vitamine E qui vient d'un petit mot grec qui veut dire « avoir les dieux à l'intérieur ». Et dans cet autre monde possible qui est en gestation dans le ventre de celui-ci, ce monde infâme, pas très accueillant, pas très chaleureux, dans lequel nous sommes nés, il y a un autre monde différent qui attend. Mais l'accouchement est difficile. « Merci », lui dit le petit bonhomme impatient, « je prends l'enthousiasme ». Et il partit loin, dans une forêt, quelque part où la fable des trois petits cochons était remise au goût du jour, par ceux qui refusaient la fatalité du hors-sol et du préfabriqué. Il se passait quelque chose du côté de la forêt. Certains avaient commencé à réhabiter ces espaces avec la détermination de sortir du monde mortifère de l'économie. Un tout autre rapport au monde s'y bâtissait, une terre d'accueil pour notre petit bonhomme.
Le premier petit cochon rencontra un homme qui portait une botte de paille.
Charte d'accueil des chantiers participatifs. Bienvenue à l'Espiette.
Connaissez-vous la véritable histoire des trois petits cochons?
Être le changement que nous voulons voir dans le monde, voilà ce qui porte notre projet d'écolieu.
Les trois petits cochons doivent construire un abri car le grand méchant loup rôde. Le premier cochon a lu dans un magazine d'ingénieurs que les maisons, c'est en béton.
La rénovation écologique d'une bâtisse ancienne et la construction d'une maison en paille.
Les cochons n'ont pas d'argent pour construire leur maison. Ils décident de travailler ensemble. L'un va cueillir du chanvre et de la paille, tandis que l'autre récupère des palettes de bois pour faire des planches. Un beau travail collaboratif qui attire l'attention des animaux de la forêt. Et tous viennent les aider à assembler la maison.
Je suis étudiante en architecture. Je fais un tour de plein de chantiers participatifs en France, en autoconstruction et en éco-construction. C'est un nouveau modèle, on va dire. C'est sortir du modèle individualiste pour construire quelque chose de nouveau et le construire ensemble et se réunir pour être plus fort ensemble. Et dans quelques années, ce ne sera pas possible de faire autrement. Aujourd'hui, on est juste dans une utopie qui dit que on peut continuer à construire en béton et à ne pas isoler nos maisons, mais c'est juste impossible. Bon, aujourd'hui, il faut penser dès la base le fonctionnement bioclimatique de la maison. Et ici, c'est clair que c'est un lieu d'échange pour tous ceux qui pensent de cette manière-là.
Puisque c'est ainsi, je vais souffler bien fort.
Il souffle, et il souffle, et souffle encore. Mais ne réussit pas à faire tomber la maison. De colère, il dérègle le climat, crée des lourds ouragans. Mais rien n'y fait. Tout Tous les animaux de la forêt se sont réfugiés dans la maison. L'hiver est très très froid et le grand méchant loup, très très affamé, rôde.
Il faut la tasser cette paille, c'est ça?
Ouais, c'est ça, faut éviter les bulles d'air. Ce serait dommage que l'humidité se loge dedans. Donc on tasse.
Le premier petit cochon a froid dans sa maison. Il n'a plus de pétrole pour se chauffer. Et le loup rôde toujours. Il va donc au village pour chercher du pétrole. Mais le pétrole, c'est cher. Très, très cher. Sur le chemin du retour, le grand méchant loup est là.
Petit cochon, viens chez moi. Je pourrais te donner du pétrole. J'en ai un gros stock.
Ils entrent dans la forêt tous les deux. Le grand méchant loup le mange. Les deux autres petits cochons ont accueilli tous les animaux de la forêt. Bon, ils sont à l'étroit, mais tout le monde cohabite très bien. Leur maison a des murs si épais qu'ils n'ont pas besoin de chauffage. Les rayons du soleil et la chaleur animale suffisent.
Petit cochon, laissez-moi entrer dans votre maison.
Ah non, par les poils de nos manteaux, tu n'entreras pas dans notre maison.
Puisque c'est ainsi, je vais souffler bien fort. Je vais souffler encore. Et votre maison s'envolera avant que je ne vous dévore.
Un peu plus tard et plus profond encore dans la forêt, il était une ZAD. Eh bien non, le grand méchant loup ne gagne pas à tous les coups. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien lâcher, même si les coups sont durs.
On peut aller 4, 8, 10, y a pas de problème.
Bon, on y va là?
Allez, on y va.
Et vous, vous habitez ici?
Non, pas ici, à 20 km là.
Ah ouais,
ouais. Je suis un paysan là, un seul contre tous. Parce que ici, les paysans, ils sont pour le barrage. Ils n'ont pas tout compris. Voilà, et je combats une agriculture que j'ai faite. J'ai été un paysan productiviste. Je pense que dans une génération, on a été très mauvais, on a tout détruit, on a tout cassé. Et puis on était poussé par la chambre, par la FNCA, par tous ces lobbies de banque, de matériel agricole, de marchands de matériel, de marchands de pesticides.
Roundup, le premier désherbant qui donne envie de désherber.
Il y a un tracteur au milieu qui bloque, hein, c'est ça. Oui. Voilà.
Et là, aujourd'hui, quand je vois 40 hectares, moi, ce qui me chagrine le plus, des insectes, les oiseaux et tout ça, je suis
qui vont disparaître sous l'eau, c'est ça?
Oui, je suis conscient que c'est un... C'est,
donc là, on passe à notre barrage.
C'est important, mais moi, je laisse à d'autres le soin d'analyser ça. Moi, ce qui me fait le plus mal au ventre, c'est qu'on va noyer 40 hectares de terre d'alluvion. Et on ne peut pas continuer à laisser disparaître la terre agricole comme ça. Il y a un département français qui disparaît tous les 7 ans. Dans 700 ans, il n'y a plus de terre. 700 ans dans la marche du monde, c'est demain. Et je suis fier d'être là pour essayer de m'apporter ma petite goutte d'eau à cette...
Mais c'est bien joyeux cette résistance-là. Hein,
là. Voilà. C'est bien joyeux, oui. Les gens rigolent. Après, moins quand ils se font casser la gueule, mais...
Ouais, parce que là, ça y est, on approche là, non, du front, entre guillemets.
Le front, il est derrière.
Ouais.
Si tu veux aller au front, il faudra sauter le ruisseau et tu vas derrière.
Merci Rémi.
Avec plaisir.
Alors ça, c'est la Bouillonnante. C'est ce campement, il y a un petit chapiteau et il y a une trentaine de tentes autour. Là, c'est le camp avancé. Donc c'est juste au bord de la parcelle qui est en train d'être déboisée. On entend les tronçonneuses au loin. Il y a plusieurs dizaines, centaines de zadistes, hein, comme on vous appelle, et vous occupez le terrain pour empêcher le déboisement. Hein.
Voilà, tout à fait. On occupe toute la zone qui est à défendre en fait contre ce déboisement et ce projet de barrage. Et partout, il y a des projets inutiles qui viennent détruire des espèces menacées, protégées, et qui vont bouleverser la biodiversité et notre survie. Et la survie du vivant, c'est là où je viens, où on vient, parce qu'on est beaucoup à faire ça, quoi. et que en fait ce qui gagne c'est l'opinion publique. Nous on sait très bien que on est une poignée quoi, on est potentiellement 7 milliards à pouvoir résister, mais que ici et maintenant on n'est qu'une poignée à résister, et que si on est l'étincelle, c'est pas nous qui avons la poudre quoi, et c'est les locaux, c'est l'opinion publique, c'est la masse qui a cette poudre, et ensemble on peut vraiment faire quelque chose.
Et dans cette belle forêt, le projet de barrage fut abandonné. Mais Rémi, un jeune étudiant en botanique, avait perdu la vie, tué par une grenade offensive lancée par les forces de l'ordre. Et d'une ZAD à l'autre, la résistance continuait. Et c'est un peu plus loin, à l'ouest, que notre vaillante Camille prêta serment, le serment des bâtons, un serment d'actualité.
Oui, que résonnent nos bâtons. C'est en ce moment sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Des milliers de marcheurs, 40 000 selon les organisateurs, sont venus avec un bâton pour le planter dans un talus et se sont engagés à revenir le prendre en main si les expulsions des paysans et nouveaux habitants devaient commencer, pour protéger ce bout de territoire et l'expérience qui s'y développe.
En ce 8 octobre,
nous saisissons nos bâtons,
symbole de notre détermination et outil de protection de cette ZAD que nous aimons. Nous ne soumettons pas ni à la loi du profit, ni à celle du plus fort. Nous sommes là, nous serons là.
Très bien, cultivons notre jardin, déclara notre grande optimiste. C'est déjà ça. Apprenons à faire notre potager bio pour nous nourrir sainement, à autoconstruire notre maison, accomplir notre propre transition énergétique, que chacun participe à changer le monde à sa manière, à son échelle.
En forme plutôt naturelle, le pêcher, il est plutôt buissonnant en fait. Et les abricotiers, c'est pareil, ils partent de très bas. Et vous voyez le port plutôt spontané de l'abricotier. Il s'étale. Et moi, je trouve ça intéressant aussi de pas intervenir sur certains arbres pour savoir comment ils se comportent spontanément. Et du coup, aussi essayer de se servir de ça, en fait. Parce que là, les abricotiers, il y a très peu besoin de taille. La plupart des fruits à noyaux, il y a très peu besoin de taille. Parce qu'ils ont un port spontanément très étalé, en fait, et qui ne monte pas beaucoup, qui seront accessibles à la cueillette.
C'est de l'ordre de l'utopie réalisable et on s'appuie sur des choses directement observables.
C'est de la nette.
Ah bah tu dis c'est de la nette ou du fenouil, il faut choisir.
C'est de la nette ou fenouil sauvage.
Donc la nette c'est du fenouil sauvage.
C'est un des exercices privilégiés du permaculteur, c'est de passer du temps à observer. Observer pour voir comment la nature fonctionne, comment les animaux fonctionnent, comment ils vivent, etc., comment ils interagissent. Donc, je pourrais presque dire que la base de la permaculture, c'est l'observation.
Et c'est plutôt pratique, on va dire,
c'est
de base.
C'est pratique, sauf si tu as un tracteur tondeuse.
Ah.
Les fruits à noyaux.
Thierry Bafou et Cathy Dubourg. Donc, nous sommes ici nous, depuis une vingtaine d'années avec Cathy, voilà, sur une ferme qui appartenait à mes parents. Nous avons décidé tous les deux de transformer ce lieu-là en un lieu de vie, donc un lieu où on allait habiter, mais aussi une activité professionnelle, une activité boulangère. On fait du pain pendant une petite dizaine d'années sur ce lieu-là. Et puis petit à petit, nous avons imaginé un espace de démonstration autour des énergies renouvelables, autour de l'agriculture biologique, autour de ce concept de permaculture. Et donc on a implanté différentes installations pour pouvoir accueillir des groupes en formation sur ces différentes thématiques.
Passage du consommateur dépendant au producteur responsable. C'est ça ?
Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce qu'on est en train d'apprendre.
L'individu, son habitat et son mode d'organisation. Bah, c'est de la politique que vous faites ici, alors.
Plus ou moins.
La permaculture, je pense que c'est la réponse réellement à une société malade, en fait.
Alors Thierry Bafou, c'est quoi exactement la permaculture? C'est une philosophie de vie? C'est un choix de société? C'est quoi exactement?
Pour certains, c'est effectivement une philosophie. Pour d'autres, c'est une grille de lecture de la société, de l'endroit où l'on vit, de son activité professionnelle, qu'on va regarder, qui peut être un habitat, qui peut être un terrain plus grand, une ferme, qui peut être une ville, qui peut être un pays. Voilà, on peut regarder ça à différentes échelles. Et on va regarder les flux, etc. Mais on peut aussi regarder cet espace-là du point de vue des circulations, des interactions entre les gens, etc. On peut regarder cet espace-là aussi du point de vue de la gouvernance, comment ils régissent leur organisation sociale, etc. Donc c'est vraiment une approche complètement intégrée de la totalité de la vie, en fait. On pourrait dire ça comme ça.
Bah, c'est de la politique, tout ça.
C'est éminemment politique. La permaculture, c'est éminemment politique, si ce n'est qu'on n'entre pas par ce canal-là. On entre par une analyse intégrée, plus locale, plus concrète peut-être aussi. Mais effectivement, c'est éminemment politique.
Donc là, ça a été recépé à cette hauteur-là. Prendre soin de l'homme, ça c'est le premier principe. Prendre soin de la terre et créer l'abondance pour un partage équitable, en fait. C'est ça les trois principes. Il y a un écosystème qui est présent, qui est plus ou moins en bonne santé, mais il faut savoir s'en servir, quoi. Prendre soin de l'homme, ça c'est le premier principe. Prendre soin de la terre et créer l'abondance pour un partage équitable, en fait.
Oui, voilà, c'est formidable, nous sommes sauvés. Mais en s'approchant de la ville, pour pointer à Pôle emploi, catastrophe, horreur, malheur, effroi. Des projets des plus néfastes étaient à l'étude. Toutes les forêts du monde, unissons-nous, cria-t-il. On ne lâche rien. Il était une fois, mais pas deux.
Comme un bruit qui court.
Sur France Inter.
Two covered streets lead from the metro to the new neighborhood. Along with an array of radial streets, they create a continuous urban fabric that leads straight to the heart of the city.
Deux rues couvertes partent du métro jusqu'au nouveau quartier, ainsi que des radiales qui créent des liaisons qui mènent directement au cœur de la ville.
With its own unique character,
jusqu'à la place centrale, qui est pleine de vie.
Coming from the north, connected to the metro station, we find the busiest area.
Au nord, près des stations de métro, on trouve la partie la plus vivante, avec la majorité des magasins, des restaurants, des services et le centre d'exposition international. En se déplaçant dans le cercle, vous trouverez du sport et des activités extrêmes. Avec de l'aventure, de la neige, de l'eau. Plus vous bougerez vers le sud, plus vous trouverez une ambiance plus tranquille où vous pourrez vous connecter avec la ferme urbaine. Et vous reviendrez là où le parcours a commencé.
Alors aujourd'hui, on a de la chance, hein, il fait beau, on est à une dizaine de kilomètres de Paris.
15 kilomètres.
15 kilomètres.
C'est l'espace agricole de taille importante, le plus proche de Paris. C'est une pénétrante agricole dans la zone urbaine.
Alors le ciel est lacéré de traces d'avions. Hein.
C'est grâce aux avions que cet espace n'a pas été urbanisé, puisqu'on est entre les deux aéroports, 300 hectares de la zone, de la future zone d'activité du triangle de Gonesse, avec devant nous les terrains où serait implanté le complexe commercial de loisirs Europa City. On continue à faire des centres commerciaux sur des terres agricoles, ce qui est totalement aberrant, qui ne crée plus d'emplois. On parle chaque fois de création d'emplois, ça n'en crée plus, ça en déplace et ça détruit les emplois de centre-ville.
Attendez, il y a une piste de ski, ah si beau bleu.
Non, il y a dans le complexe, il y a 500 boutiques de luxe, il y a 80 000 mètres carrés soi-disant d'espace culturel. En plus de ça, il y a un parc nautique, il y a un parc d'attractions pour les gamins et cerise sur le gâteau, il y a une piste de ski. Alors, une piste de ski indoor, bien sûr.
Europa City, une architecture accessible, responsable, intégrée, fonctionnelle, internationale.
Alors tout ça, ils nous disent, oui, mais ça va être en énergie positive, c'est-à-dire qu'on ne va pas consommer. C'est complètement fou.
Europa City est la plus innovante des destinations européennes et apporte une réponse inédite à l'évolution des modes de vie, articulant étroitement l'ensemble des dimensions de la politique urbaine pour renforcer leur caractère durable.
C'est des terres qui ont été cultivées par mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, et je voudrais bien reprendre à Gonesse. J'aurais bien continué.
Moi, je suis la quatrième génération des Plais, et lui, donc, ça sera la cinquième. Ce sont des terres extraordinaires. Pour moi, ce sont des terres extraordinaires. Comme tout le monde dit, la nature a mis des milliers d'années pour nous faire une terre aussi belle, hein, aussi belle, aussi productive. Et en un an de temps, ils vont vous bétonner tout ça. Puis après, c'est irréversible, c'est foutu. Hein. Moi, je trouve ça aberrant.
Europa City, en avant pour la bio-urbanité.
Je vis dans un monde formidable. J'ai du travail, des femmes et des frontières. Je calcule mon bien, j'ai des rêves raisonnables et des valeurs, et je cligne des paupières. Je vis dans un monde formidable. Il me ressemble, j'y suis majoritaire. Et je vote toujours pour l'un de mes semblables. Je connais le bonheur et je cligne des paupières. Je vis dans un monde formidable. Je vis dans un monde formidable. Je vis dans un monde formidable. Je vis dans un monde formidable.
Quant au troisième bonhomme, qui était plus doux et rêveur que ses camarades, il partit tout en haut de la montagne. « Là-haut, se dit-il, je serai bien tout seul. Je verrai comment les bergers vivent en harmonie avec la nature et les animaux. Je pourrai réfléchir au sens de la vie et de la mort. Sur la montagne, c'est sûr, j'échapperai à ce monde absurde, gouverné par les hommes, vils et vénaux, motivés par la recherche du profit et les guerres sans merci. » Le petit bonhomme chaussa donc ses crampons et se mit en route vers les sommets. Quand il arriva tout en haut, il rencontra un jeune berger. Étonné, il s'approcha pour voir ce qu'il faisait.
Donc ça, c'est un matador. Donc, pour assommer l'agneau. C'est un long tube avec un percuteur, une charge de poudre, une tige métallique qui va faire un aller-retour très vite. C'est ça qui rentre dans la tête et qui assomme la bête, en fait. On se fait un petit allure avant de partir à la montagne, pendant 3 semaines. On se le prépare en bocaux, on monte tout avec les ânes, comme ça on a un petit peu de viande sur place et quelques petits bons plats préparés d'avance pour les sorts de pluie. Si on arrive à le palper, là il est bien gras. Il y a juste le bruit de la machine qui va faire une réaction, mais rien d'autre.
Il le tient par une oreille, par une corde. Un couteau.
Uniquement ça qui fait. Là, il a les tremblements de nerfs, comme on dit. Là.
Vous lui tenez la tête.
Il met la main sur la tête, ouais, histoire de. Moi, ouais, je sais pas, ouais, de. Pour l'accompagner, je pense. Je sais pas si c'est pour lui dire merci de nous servir après, pour nous nourrir, quoi, ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est dur à exprimer. C'est pas juste de le saigner et puis de le laisser finir tout seul, quoi, voilà. Mais je suis avec lui jusqu'au bout, quoi. D'ailleurs, là, c'est fini. C'est beau.
Quand vous sentez que c'est fini?
En fait, on sent des vibrations dans le corps. Et après, lorsqu'il n'y a plus rien, bah, c'est que c'est fini. Et là, ça dure 30 secondes, 40 secondes. Donc là, rien, pas de souffrance, pas de mouvement, pas d'affolement. Là, si on avait dû le mettre dans une remorque, l'amener je ne sais où, quand ils sont nombreux encore, ils tiennent compagnie, mais ils partagent le stress peut-être. Mais là, un agneau, quand il est seul, ou c'est même pas la peine, c'est encore pire. Il supporte pas d'être seul, ces bêtes-là. Voilà. Je vais l'amener à la maison.
Cette expérience de la mort de l'agneau troubla notre petit bonhomme. Comment ? Il existait donc un endroit où l'on savait tuer dignement, sans honte et sans méchanceté, loin de ces lieux terribles où l'on abat à la chaîne, où les souffrances des hommes et des bêtes sont telles qu'elles doivent être cachées au reste de la société. À l'endroit où la mort n'était pas tabou puisqu'elle faisait partie de la vie. Le petit bonhomme voulut en savoir plus et suivit le berger dans sa cabane, en haut du village.
Vous l'appelez comment ?
Stéphane. Ça, c'est un vieux chevalet d'origine. Je l'ai trouvé dans la vieille maison où on habite. Il est indatable, je sais pas quel âge ça.
C'est un chevalet ?
Ça s'appelle un chevalet, ouais. C'est pour poser les agneaux pour les dépecer. Deux petits couteaux. Un, c'est un couteau de cuisine, l'autre, c'est un couteau fabriqué par un copain avec une forme particulière pour enlever la peau du ventre. On dégage les pattes. Là, on fend la peau là, le long du membre. Et puis après, on va l'ouvrir autour du membre.
Vous avez appris comment ?
D'abord, j'ai appris avec mon grand-père à appeler les lapins quand j'étais gamin. Et ensuite, il y a des vieux bergers qui m'ont montré comment ils faisaient, comment ça se passait, quoi.
Sur la porte, il y a un portrait de Che Guevara.
Ah ouais, un portrait du Che, ouais. Je me suis ramené des repères, on va dire, dans ma petite salle.
Là, l'agneau remonte, suspendu par les pattes arrière.
Voilà, là, je vais le thorax.
C'est un peu dur, ça, quand même.
Ouais, là, il y en a de la tripe. Ouais. Voilà. C'est là que tu vis la bonne santé ou pas de l'animal. Tu vois, déjà le foie, c'est un indicateur, quoi. C'est vraiment le thermomètre du corps, quoi. Il a une jolie couleur, homogène, et il n'a pas de gros d'abcès, de fixation, on appelle les abcès de fixation. C'est des gros points blancs, voilà. Le cœur, pareil. Pas de couleur jaune suspecte autour du cœur. Du coup, là, je récupère le cœur.
Pour en faire quoi ?
Donc, le cœur et les foies, on va pour le manger. Je le fais à la poêle, moi. À la poêle avec des aromates, une petite sauce au vin, souvent. Hop, on a ça à garder. Hop, ça ira pour le chien. Impeccable. Un bout de ficelle. À l'abattoir, ils ont des jolis élastiques. Dans le film Le sang des hommes, on voit le mec qui fait tomber sa boîte d'élastique. Là. Il y a un mec qui fait que ça, poser l'élastique autour des épaules. Donc il est tellement stressé, le porc, à faire que ça. Il vient avec sa main, il est là, il clac, 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 clac. Et à la fin, sa boîte, elle tombe, il y a des centaines d'élastiques par terre. Voilà, on n'est pas stressé. On se la fait tranquille, propre. Et voilà. Allez, prêt pour le service.
Et la première fois que vous l'avez fait, ça vous a impressionné ou pas ?
Je pense que c'est dans l'état d'esprit où on est pour le faire. Il est là pour être mangé, donc voilà, je le sais dès le départ. Il n'y a pas de plaisir jouissif ou quoi que ce soit là-dedans, bien au contraire, quoi. Puis là, tout à l'heure, voilà, j'avais la main dessus, tout, c'est tout, ouais, tout est fait ensemble avec les bêtes, et jusqu'au bout, et je pense, je sais pas, peut-être mon idée, mais je pense que ça les apaise d'être, dans ce moment-là, d'être avec elles vraiment, quoi, au plus proche d'elles, quoi. Puis après, bon, après c'est fini, ils sont plus là, quoi, on va dire.
Ici, là, on est où en fait ?
Dans notre village, on est à la Colle Saint-Michel, dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est magnifique, c'est la montagne tout autour,
il fait un temps super. On est très privilégiés, on habite dans un endroit très 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 beau, c'est vrai. Ça, c'est nos chiens de troupeau. Moi, je m'appelle Muriel. J'ai d'abord été bergère salariée. Je gardais les brebis des autres pendant une dizaine d'années. Et puis j'ai rencontré Stéphane. Et puis, on est devenus tous les deux bergers, quoi. Et après, il y a l'éleveur de brebis de notre village qui a pris sa retraite. Donc, on s'est dit, allez, on y va. Depuis, on a nos brebis à nous et on vient tous les jours ou tous les deux jours pour les soins et tous les jours, on vient traire les chèvres. On a 180 brebis et on a une quinzaine de chèvres avec quelques cabris Enfin, en tout, on a à peu près 200 bêtes, on va dire. Voilà. Il y a aussi les 5 béliers.
Il y a 120 agneaux, là. 120 agneaux, après.
Ah, ben, elles sont là. Ah, ben, elles sont tellement calmes qu'elles ouais. On n'a même pas entendu les sonnailles. Hé, lavé. Hé, lavé. Hé. Viens, ma molécule.
On a des brebis qui sont presque apprivoisées. Quand on les appelle, elles viennent. Les chèvres aussi.
Il y a les petits agneaux aussi.
Là, les petits agneaux, on va les voir après. Ils courent tout seuls, ils font des bonds dans tous les sens. Bon, ça prouve qu'ils sont bien, qu'ils sont heureux. Quoi. Une partie de ma famille est originaire d'ici. Du coup, c'était l'endroit rêvé pour s'installer. Quoi. Parce qu'on est isolé. Comme en plus on est en bio, ben, c'est bien comme ça. On n'est pas pollué par les voisins s'ils n'étaient pas en bio. Nous, on nourrit nos champs avec le fumier des brebis. Et on met rien d'autre.
Vous les vendez à qui, vos agneaux ?
On vend direct aux particuliers. On s'est commencé avec le bouche à oreille, en fait, tout simplement. Puis, vu que les gens aiment ça, ben, le réseau s'est développé. Et au fur et à mesure, on a plus de demandes que ce qu'on peut fournir.
Et là, vous les ramenez à l'entrée du parc, en fait, voilà, les brebis. Là,
c'est un parc où on peut les serrer pour ne pas avoir à leur courir derrière. Et là, on va en profiter pour compter. Bon, les chefs, c'est vite fait de les compter et de les reconnaître. Ils ont tout un prénom. Et il y avait pas mal de brebis qui ont leur prénom aussi.
Belle. Il y a une chef qui essaye de me piquer mes papiers là-dedans.
Ouais, alors ça, c'est pot de colle. En fait, on comptait pas la garder, cette chèvre. Elle était destinée à être consommée pour la viande. Mais elle a été tellement pot de colle. Et en fait, voilà, j'ai pas eu le courage. C'est sûr que des fois, il y a aussi les émotions quoi, qui rentrent en jeu et qu'il faut qu'il y ait des animaux qu'on n'aurait normalement pas gardés puis qu'on garde.
Que là, tous les agneaux qui sont là, ils sont destinés à l'abattoir.
Ouais, pas tous.
Il y en a une trentaine. Chaque année, on garde une trentaine d'agnelles, de femelles pour nous. Donc pour créer un renouvellement sur le troupeau. Et après, les autres sont destinés à être mangés. Ouais. Nous, on essaye de ne pas créer de lien vraiment individuel avec un agneau.
S'il y a un lien qui s'est créé, souvent, on change d'optique, on le garde. On ne cherche pas à créer le lien avec les agneaux, de lien affectif, parce que bah, sinon, après, c'est moralement, pour nous, c'est difficile aussi. Par contre, les brebis, celles qui sont apprivoisées, elles partent pas à l'abattoir, elles partent nulle part, d'ailleurs, elles meurent chez nous, elles arrêtent quand elles ont envie. Quoi.
Et du coup, quand vous les emmenez à l'abattoir, ça vous fait rien, quoi, ça vous...
Bah si.
Si, quand même. On gâche la fin du cycle, on va dire, par ce transport stressant, par ce passage dans un milieu pas très agréable, hein. Enfin voilà, pour leur dernier jour, entre guillemets, c'est pas terrible quoi. Je pense pas que ça soit bon plus pour la qualité de la viande non plus quoi.
Donc vous, ce que vous voudriez, c'est que la loi autorise maintenant les éleveurs à abattre leurs animaux à la ferme.
C'est ça, de pouvoir le faire chez nous sans avoir à les déplacer dans des remorques pour les amener à des heures de route de chez nous et que ça se passe là calmement, sans stress, sans rien. Donc on donne naissance, entre guillemets, hein, on assiste à la naissance. Eh ben, autant qu'on aille jusqu'à la mise à mort aussi, chez nous, et comme ça, les bêtes seront moins stressées. Et puis nous, ça nous rassure, parce que voilà. Enfin, je ne sais pas si on le fait mieux ou on le ferait mieux. Parce que peut-être que ça serait quelqu'un d'autre qui le ferait si c'était autorisé. Hein. Mais qu'on soit présent, quoi, en tout cas. Parce que pour des petits élevages comme les nôtres, on n'est pas les seuls dans ce cadre-là, avec 200 bêtes à peu près. Amener les agneaux à l'abattoir, et vu les distances qu'on a, on pourrait très bien le faire chez nous, ce n'est pas des volumes importants. Donc c'est de laisser la possibilité à ceux qui le veulent de le faire chez eux, de façon à être cohérent dans notre manière d'élever, et de suivre la vie de la bête jusqu'au bout. Quoi.
Voir la mort en face comme ça, c'est pas facile. Même quand on le tue ici, ça reste une mise à mort. Et pour moi, après, le fait que la mort soit tellement cachée, c'est un problème. Les gens ont peur de leur propre mort, ils ont peur de la mort, ils ont peur de la fin des choses. Quand on est éleveur, les brebis, elles nous apprennent à apprivoiser la mort, à ne plus avoir peur de la mort. Et à partir du moment où on a compris tout ça et qu'on est plus serein par rapport à ça, on peut aussi accepter d'être éleveur et que la mort fasse partie aussi de notre travail. Souvent, on ne veut pas y penser. Moi, j'ai déjà des gens qui m'ont dit, parce que moi, je veux leur parler de ces problèmes. Il y a des gens qui m'ont dit, ne parle pas de ça aux gens, sinon ils n'achèteront plus de viande. Mais moi, je veux que les gens qui achètent ma viande, ils y aient vraiment pensé, qu'ils le sachent, qu'ils en soient conscients. Sinon, je préfère qu'ils ne mangent pas de viande. En fait, je préfère ou qu'ils mangent de la viande consciemment ou qu'ils n'en mangent pas. Voilà.
La rencontre avec les bergers emplit notre bonhomme d'enthousiasme. Et c'est avec sérénité qu'il redescendit de la montagne. Il avait découvert un endroit magique où l'on pouvait vivre et mourir dignement. Et il avait hâte d'aller en faire part à tous. Mais auparavant, il se dit qu'il serait judicieux de comprendre les mécanismes qui avaient mené notre société à sa faillite, pour être sûr de ne pas recommencer. Un petit bonhomme averti en vaut deux. Il se rendit donc dans un laboratoire de recherche.
Vous êtes chercheuse à l'INRA?
Oui, je suis directrice de recherche. Je travaille sur les relations de travail entre humains et animaux. Je fais des enquêtes dans les abattoirs industriels.
Vous appelez comment?
Jocelyne Penchet. Les abattoirs industriels sont violents, mais ils sont que la suite de ce qui précède, quoi. De sa naissance à sa mort, un cochon, il n'est rien. La truie, elle est considérée comme une machine à produire des porcelets. Même déjà ces porcelets, c'est même pas des porcelets, c'est déjà du porc, de la matière animale porcine. On peut pas comprendre l'abattoir industriel si on le relie pas à ce qui précède. C'est la suite, quoi. C'est la même chose. Ils sont abattus comme ils sont produits, quoi. D'ailleurs, ils sont produits, ils sont pas élevés. Et là, le problème, c'est ça. C'est que les éleveurs qui, eux, élèvent leurs animaux, eh ben, ils sont contraints d'emmener ces animaux dans des abattoirs pour qui, ben, c'est pas des animaux, justement. Aujourd'hui, la modernité, elle est du côté de ces éleveurs qui réinventent des formes de relations de travail aux animaux en accord avec la sensibilité des citoyens. D'ailleurs, il n'y a pas une crise de l'élevage, il y a une crise des productions animales. C'est pas la même chose. L'élevage, non, moi, les éleveurs que je connais, ils sont pas en crise, ils gagnent bien leur vie. C'est vers eux que se tournent les consommateurs. Il y a une crise, par contre, des productions animales, parce que ce système est à bout de souffle, il est périmé. De toute façon, il est condamné à mort parce qu'il va être remplacé par d'autres acteurs du système alimentaire, bon, notamment tous les substituts à l'alimentation carnée, voire dans 10 ans par la viande in vitro. Toutes ces start-up, elles sont soutenues par des acteurs comme Bill Gates, comme Google, comme des fonds d'investissement très puissants. Les enjeux financiers maintenant, ils sont là, quoi. C'est pour ça que ces systèmes industriels, ils sont condamnés à disparaître, parce qu'ils ne sont plus assez rentables. C'est une industrie lourde. Mais nous, il nous restera à dépendre de Bill Gates et de Monsanto pour manger les steaks de soja qu'ils voudront bien nous fournir. En attendant la viande in vitro, parce que là aussi, c'est la suite logique de l'industrialisation qui s'est passée au 19e siècle. Maintenant, les nouveaux acteurs de l'industrie, ils n'ont pas besoin de l'animal entier. La cellule leur suffit pour faire de la viande in vitro. Il faut comprendre pourquoi on tue les animaux et comment, pour pouvoir penser l'élevage demain, quoi. Pouvoir penser sa pérennité contre tous ceux qui veulent sa disparition.
Youpi ! Y en a marre qu'à Noël, on ne parle que des enfants. Ce sont les petits crevards qui chialent tout le temps. Voici plutôt l'histoire d'un pauvre petit mouton qui s'appelait Jingle, et voici sa chanson. Hey, jingle bell, jingle en caouet. Oh, what fun it is to sing ce petit air anglais. Hey, jingle bell, jingle en caouet. Fièvre afteuse et OGM, c'est vraiment pas le pied.
Solo à la bouche.
Oh my god!
Le petit bonhomme se dit qu'il allait falloir sérieusement se bouger pour ne pas se faire à nouveau attraper. Ce qu'il avait découvert dans la montagne l'enchantait, mais ce n'était pas l'avenir que le capitalisme lui préparait. Il était une fois, mais pas deux. Vite, il courut avertir ses camarades du danger. En 2018, c'est sûr, ils allaient s'unir et ensemble tout changer.
Jingle bell, jingle en caouet. Fièvre afteuse et OGM, c'est vraiment pas le pied de mouton.
C'était comme un bruit qui court. Laissez-nous des messages sur les réseaux sociaux, abonnez-vous au podcast et faites courir le bruit que le bruit court. Retrouvez aussi toutes les informations et les musiques sur le site de l'émission à l'adresse franceinter.fr. Et nous, on se retrouve l'année prochaine, samedi à 16h.